Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre Saint-Michel Gary Coates, 1797-1863, sa vie et son œuvre hier et aujourd'hui. Une conférence du père Beignat Oyenart de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétaram. Cette conférence était enregistrée en 2013 au Musée Basquet de l'Histoire de Bayonne. Nous écoutons le père Beignat Oyenart.
Bonjour à tout le monde d'abord. Parler de Michel Gary Coates, Saint-Michel Gary Coates, aujourd'hui c'est pour nous important, nous religieux du Sacré-Cœur de Jésus. On n'est pas religieux de Bétaram au départ, on est religieux du Sacré-Cœur de Jésus. Bétaram, ce n'est qu'un lieu. À l'occasion donc des 150 ans de la mort de Michel Gary Coates, qui est le 14 mai 1863. Je vais essayer de faire ça en trois points. Ils seront de plus en plus courts au fur et à mesure du temps. La vocation de Michel Gary Coates, qui va partir sur son histoire. La deuxième partie, c'est religieux du Sacré-Cœur de Jésus, que peut-être qu'on séparera en deux parties, la vocation religieuse et après Sacré-Cœur de Jésus. L'avantage du français, c'est que religieux, ça peut s'écrire au singulier ou au pluriel avec un X. Alors, on prendra tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Et puis après, un peu de mots, dire aujourd'hui l'arbre de Bétaram. Donc, il faut commencer par situer Michel Gary Coates. J'aime partir de la première lettre de Paul aux Corinthiens, où il dit que parmi les gens de Corinthe, les chrétiens de Corinthe, il y a peu de puissants, il n'y a pas beaucoup de gens de bonne famille, et ce que Dieu a choisi, c'est ce qui est folie, ce qui est faible. Michel Gary Coates, au départ, c'est quelque chose, quelqu'un de très petit, de très faible. Pour situer, le samedi 20 août 1796, alors il faut barrer ça et il faut corriger, le 3 Fructidor, l'an 4e de la République française, une et indivisible. À midi précis, Arnaud Gary Coates et Graciane Echeverry, Dibar, tous les deux, se marient. Alors s'il faut situer géographiquement, à l'époque, ces communes d'Ibar, ça ne sera commune de Saint-Just-Ibar qu'en 1830 et quelques, ces cantons de l'Arcevaux, ces districts de Saint-Palais et ces arrondissement de Mauléon, sous-préfecture. Donc, il n'y a pas de célébration religieuse possible, puisque nous sommes à l'époque de la Révolution, et on nous dit qu'ils sont passés en Espagne, à 25 km de là, pour recevoir la bénédiction nuptiale. Nous, on préfère dire qu'ils sont allés de l'autre côté des Pyrénées. Car Ibar, c'est au fond d'un vallon du Pays Basque. Ce sont quelques maisons paysannes qui, à côté de l'église, forment un hameau. D'autres maisons s'accrochent aux premières pentes des montagnes. Parmi celles-là, Garacochea. Garacochea a transmis son nom à ceux qui l'habitent. C'est la maison sur la hauteur. On va écrire Gary Coates. Avec le temps, ça va devenir Gary Coates, avec un C, un I tréma, T, S. Quand vous le voyez écrit avec un Z à la fin, et qui et parfois avec un K, ce sont les Basques qui écrivent comme ça. Mais il y a eu, dans sa vie, dans ce qui précède, il y a eu le nom Garacochea, Garacoche, a été écrit d'une quinzaine de façons différentes. Michel, il naît le samedi 15 avril 1797. Donc là aussi, il faut corriger, c'est le 26 germinal de l'an 5 de la République française, toujours une et indivisible. On nous dit qu'à cause de la Révolution, il a été baptisé en cachette dans une maison. Et si vous allez à Osta, on vous montrera la maison Erecaldia. On a un de nos pères qui a fait bien des recherches et il est étonné de cela parce que à cette époque-là, au début 1797, le curé d'Ibar reçoit une lettre de son évêque de Dax. On est à l'époque au diocèse de Dax. En principe, M. Borda est présent à Ibar. On ne sait pas pourquoi. Ils ont attendu 6 mois. En plus, quand Gary Coates va être ordonné prêtre, il faut bien sûr un extrait de baptême. Il n'existe pas. Et comme pour beaucoup à cette époque-là, on fait donc témoigner des gens et même ce témoignage-là a disparu des écrits. Michel Gary Coates, on raconte beaucoup d'événements au sujet de son enfance. Ce n'est pas un garçon calme. Les petites histoires disent que déjà au jour de son baptême, il avait trouvé moyen de déchirer la page du livre de celui qui baptisait. À l'âge de 4 ans, c'est lui qui raconte, « J'entrais chez notre voisin, je lançais une pierre sur une femme qui, je croyais, avait fait du mal à ma mère. Et puis je m'échappais à toutes jambes. » À 5 ans, un marchand colporteur vint à passer chez nous. Parmi les objets qu'il étalait, je lui dérobais quelques aiguilles. Ce sont les petites histoires. Mais enfin, sa mère est là, qui l'oblige à rendre la gousse d'ail qu'il a prise au jardin de la voisine, à rapporter l'oiseau qu'il a pris dans le piège d'un autre. Et pour l'histoire des aiguilles, il raconte lui-même, « Lorsque ma mère me les vit entre les mains, elle me fit une leçon bien forte. Elle me conta qu'un enfant était allé en enfer à cause d'un vol semblable. Je ne savais pas ce que c'était que le vol jusqu'alors. Mais depuis, je le redoutais comme conduisant en enfer. » Si je dis cela, c'est pour montrer ce côté de rigueur janséniste qui existe à l'époque. N'oublions pas que si Jansénius vient des Pays-Bas, celui qui a répandu le jansénisme en France, Duvernier de Orane, qui est devenu par la suite abbé de Saint-Cyran, est natif d'ici, de Bayonne. Et quelque part, il a été prophète en son pays, puisque le jansénisme a bien marqué. À l'âge de 4 ans, je tremblais de tous mes membres lorsque ma mère me disait d'une voix grave devant les flammes qui pétillaient dans l'âtre, « Mon fils, c'est dans un feu bien plus terrible que Dieu jette les enfants qui font le péché mortel. » La première école, elle n'est pas loin. À Ibar, il y a Erniaou Tchahara, le vieil Arnaud, si on veut dire. Il est à la fois, comme à cette époque, instituteur, chantre, sacristain, catéchiste. Et il prend les enfants. Michel apprend à calculer. Il a la chance d'apprendre à lire le basque, le latin, pour l'église, bien entendu, mais certainement pas encore le français, et d'après certains, peut-être même pas l'écriture. En tout cas, doué, studieux, il en sait vite autant que l'enseignant, malgré les multiples absences qu'imposent les travaux des champs. Je ne l'ai pas dit, Michel est l'aîné de la fratrie. Et donc, c'est celui qu'on prendra le plus vite pour les différents travaux. Contrairement à l'usage, et parce qu'il a reconnu les valeurs d'un enfant précoce, le curé le prépare déjà à la première communion vers 10 ou 11 ans, alors que l'habitude était d'attendre 14 ans à cette époque. Et selon la façon de faire de l'époque, avant la première communion, il faut la confession, bien entendu, mais la confession ne se donne pas en une fois. Il faut venir et revenir pour bien dire les péchés et surtout s'assurer qu'il y a une contrition. Michel en est à cette étape quand la maman lui dit « Prends garde, mon fils, une confession est une chose de la plus haute importance. Si tu fais mal, ta première communion sera sacrilège, celles qui suivront aussi. » Et en ce cas, tu ne peux aller qu'en enfer. Voilà l'éducation janséniste. Et du coup, pas de première communion pour Michel. Il a 11 ans, il doit abandonner l'école Et c'est, je crois, ce qui était longtemps la règle dans nos villages pour les familles de paysans, pour beaucoup en tout cas. Mais ils n'abandonnent pas l'idée d'étudier et d'étudier pour être prêtre. On dit qu'en 1802, quand l'église d'Ibar a été réouverte après la Révolution officiellement, il a été très touché par le faste de la célébration. Sa mère dit, nous sommes trop pauvres. Son père, tu sais bien, je ne pourrais même pas te procurer un trousseau. Au contraire, il faut travailler et travailler dur parce que il n'y a que 3,5 hectares, même si la montagne est juste à côté, il faut bien avoir le fourrage pour l'hiver. Alors, Michel va un temps garder le troupeau des deux Saint-Gemmes. La famille d'Ibar de Saint-Just, qui ensuite, avec Frédéric de Saint-Gemmes, qui passera à Saint-Palais. Et il y a trois frères qui suivent Michel, puis des jumeaux. 1810, naissent un garçon, Bernard, Beignat, et Marie. Le garçon ne vit que quelques mois. La fille sera la seule sœur de Michel, mais quand ses enfants naissent, les jumeaux, il n'est pas sûr que Michel soit à Ibar, car il est parti en 1809 à Honnêche, actuellement commune d'Amendeuche-Honnêche, sur les hauteurs de Saint-Palais. Il est allé là comme domestique. Et la maîtresse de maison, qui est originaire d'Ibar ou de Hosta, il y a eu deux mariages, je ne sais plus laquelle est originaire d'Ibar et l'autre de Hosta. Elle s'occupe de l'enfant, du jeune, comme si c'était son propre enfant. D'autant plus qu'ils sont de Lostibarais, non pas d'Amicussé, et ils se comprennent plus facilement. Elle lui dit, tu es un grand garçon, tu devrais faire ta première communion. Le curé de Garis, l'abbé Barbaste, famille saint-palaisienne, et qui sera ensuite ici à Bayonne, archiprêtre, lui n'est pas pressé, pas plus qu'autrefois la maman. Michel Garicoïtz, à ce moment, rentre dans un moment de désarroi, et c'est un fait important dans la vie de Michel Garicoïtz. Lui-même n'en parlera que très peu, et à la fin de sa vie, il a là, sur les hauteurs d'Onèche, comme une extase, une illumination. Il comprend d'un coup que Dieu est quelqu'un qui aime. Plus tard, il dira Dieu fondu en charité. Et à partir de ce moment, Michel va être tout à fait en opposition avec tout ce qui est janséniste. Ceci est un moment important que nous-mêmes, religieux de Bétharram, du Sacré-Cœur de Jésus, on a trop longtemps oublié. Et c'est le 9 juin 1811 que, en l'église de Garis, il fait sa première communion. Les hagiographes aiment dire que il paraissait être un ange. En tout cas, les dures réalités font que, à la fin de l'année, il revient à Ibar, 1811. Il a fini son temps de domestique et sans répit. Il poursuit ses parents de cette idée, je voudrais être prêtre. Un jour où il bêche la vigne avec ses parents, juste devant la maison, la grand-mère est assise à l'ombre. La grand-mère, il s'agit de la grand-mère maternelle. Elle habite chez les Garicoïtz, chez le gendre en quelque sorte, ce qui n'est pas coutumier chez nous. Mais comme ses fils étaient partis ailleurs, elle est venue chez sa fille. Forcément, dans notre coutume du Pays basque, la grand-mère maternelle est la marraine, d'où l'intérêt particulier par rapport à Michel. C'est elle qui, en quelque sorte, va gronder son gendre. Tu ne sais pas conduire ta maison. Et elle avance les arguments. Michel est doué pour les études. Il y a des écoles gratuites. Le curé de Saint-Palais est une connaissance. Le curé de Saint-Palais, c'est l'abbé Borda, dont le frère, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, était propriétaire de la maison Ordokia, où la maman de Michel Garrigoitz est née, et il est devenu, il a été curé à Ibar, et il est devenu curé à Saint-Palais. Et pendant la Révolution, il fait partie de ces prêtres réfractaires qu'on a cachés à Ordokia, la maison de la maman de Michel Garrigoitz, ou alors à Garakotia, chez les Garrigoitz. Alors, la grand-mère va partir sur Saint-Palais, à pied, 20 km. Elle est bien reçue par l'abbé Borda. Elle l'a caché si souvent. Et l'abbé Borda obtient que Garrigoitz puisse commencer les études au collège de Saint-Palais. Il est prévu d'abord qu'il aille, il habite, comme il est externe, à Angélia, chez les Angélus de Honèche. Mais nous sommes à la fin des guerres napoléoniennes. Il y a une bataille de Garis qui précède une bataille d'Orthès. Les armées de Wellington sont dans la zone. La situation est un peu trouble, donc il va résider au presbytère de Saint-Palais, assurant de multiples petits services. De là, il va continuer à Bayonne, tout en étant au service, à l'évêché, du secrétaire de l'évêque. En dehors des cours, il doit assurer différents services, en particulier, lui, grand gaillard, promener le chien du secrétaire de l'évêque sur les remparts de Bayonne. C'est le 4 novembre 1816 qu'il est, pour la première fois, uniquement à étudier. Et c'est au Collège Royal, 1816, Collège Royal d'Erre-sur-Adour, qui sert de séminaire au diocèse de Bayonne. Le diocèse de Bayonne, à l'époque, comprend les trois départements qui étaient les Landes, les Basses-Pyrénées, à l'époque, et les Hautes-Pyrénées, R étant un peu un centre. C'est là qu'il rencontre, pour anecdote peut-être, mais c'est important, l'abbé Bertrand Sévère Laurence, qui plus tard sera supérieur du petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre quand Garrigoitz sera à Bétarin, 5 km entre les deux, et l'abbé Laurence est celui qui sera l'évêque de Tarbes au moment des apparitions de Lourdes. Donc il y a des liens qui se sont créés déjà là. Et il se lie d'amitié, en particulier avec un certain Louis-Édouard Sestac, que les servantes de Marie connaissent, puisqu'il est leur fondateur. 1819-1821, il va au séminaire de Dax. On avait pensé qu'il pourrait aller à Saint-Sulpice à Paris, comme partaient chaque année un ou deux du diocèse de Bayonne, mais M. Honner, celui qui a été son protecteur à l'évêché de Bayonne, n'a pas accepté que Michel s'éloigne. Et le supérieur du séminaire de Dax, l'abbé Dupuy ou Dupois selon les écritures, ou je me trompe fort, ou ce jeune homme fera parler de lui. On pourrait croire que tout est bien droit. La renommée de Michel est déjà grande, mais à peine Monseigneur d'Astros remplace-t-il Monseigneur Loison comme évêque de Bayonne, qu'il confie à M. Claverie la fondation du petit séminaire de La Ressort, et celui-là réclame Michel Garrigoitz pour, en même temps qu'il poursuit ses études théologiques, être à la fois enseignant en cinquième, parfois classe de philo, surveillé, autrement dit, il continue à travailler, le voilà éducateur, tout en complétant sa formation. L'abbé Sestac suivra un peu le même itinéraire au même séminaire de La Ressort. Le 21 décembre 1822, il est sous-diacre. Le 15 mars 1823, il est diacre. Et il y a, ça fera 190 ans bientôt, le 20 décembre 1823, Michel Garrigoitz est ordonné prêtre par Monseigneur d'Astros en la cathédrale de Bayonne. Sa première messe à La Ressort, bien entendu assez vite après, une messe à Ibar, mais la grand-mère est déjà partie depuis 10 ans. De la bergerie à la cathédrale, quelle escalade, Michel est prêtre. Voilà un de ses biographes. Au tout début de sa vie, Michel a passé une dizaine d'années au village. Ensuite, tout est très saccadé entre Onèche, Saint-Palais, Bayonne, Erre-sur-Adour, Dax, La Ressort. Ce sont des périodes chaque fois de 2-3 ans, parfois moins. Une fois prêtre, on pourrait espérer que Michel Garicolt durera davantage en un endroit. Donc, ordonné prêtre le 20 décembre 1823, au 1er janvier, il est nommé comme vicaire à Cambeau. Cambeau qui n'est pas encore Cambeau-les-Bains. C'est un bourg rural, à peu près 1300 habitants à l'époque. Il y arrive fin janvier, auprès d'un prêtre qui est immobilisé par une paralysie depuis quelques mois. Autrement dit, le curé va rester pour assurer l'accueil au presbytère et Michel Garicolt aura la charge de l'ensemble de la paroisse. Il faut noter qu'il y a une très grande entente entre eux et un zèle très fort chez Michel Garicolt. En un an et demi, il change la paroisse. Déjà, on l'appelle Abbesse Chaindois, le saint prêtre. Il y aurait beaucoup d'épisodes, je vais retenir une seule chose. Des âmes généreuses s'ouvrent aux jeunes prêtres et l'aident, en particulier Jeanne d'Agorette. Elle a 17 ans et elle veut partager sa dévotion au Sacré-Cœur. Le curé l'en a un peu détournée. Elle s'adresse au vicaire. Elle voudrait s'inscrire dans une confrérie du Sacré-Cœur et le vicaire, donc Michel Garicolt, va lui dire de créer à Cambeau une confrérie du Sacré-Cœur. C'est ce qu'elle fait avec une de ses camarades, Anne Fagald, deux jeunes filles. Michel Garicolt découvre auprès de ces deux jeunes filles une dévotion au Sacré-Cœur, d'où une dévotion qu'il transformera, mais au Sacré-Cœur. Ces deux filles, elles veulent davantage. Elles veulent être religieuses. Où ? 1825, il n'y a pas beaucoup de communautés religieuses à cette époque dans le diocèse. Il y a les Ursulines à Pau, les Dominicaines à Nailles, et puis une congrégation naissante qui s'est établie à Igon. Igon, c'est au fin fond du Béarn. Les autres aussi sont en Béarn. Les filles de la Croix sont venues à Igon parce que l'évêque de Bayonne, Monseigneur d'Astros, quand il était vicaire général à Paris, les avait rencontrées là-bas. C'est lui qui les avait fait venir là. Alors Michel, il a pris son cheval, il est allé rendre visite, il a été bien reçu chez les Dominicaines, là où est la communauté des Béatitudes actuellement à Nailles, et puis il a été vraiment dérouté par la pauvreté du couvent d'Igon. Les religieuses viennent d'arriver, nous sommes au printemps 1825. Pour lui, il n'y a pas de doute, il dit aux filles, n'allez pas chez les filles de la Croix, ce sont des imbéciles, elles ne savent même pas parler français. Allez plutôt chez les Dominicaines. Alors nous, dans la petite histoire, on dit sans doute qu'il a fait un bon repas chez les Dominicaines. Mais les filles, les dirigées, comme on disait, eh bien, elles ont pris une autre direction. Elles sont allées à Igon. Et si les voix du Seigneur sont étonnantes, celles de Monseigneur l'évêque aussi. Parce que ça ne fait pas 20 mois que Michel est en paroisse à Cambeau que l'évêque nomme le jeune prêtre, professeur au grand séminaire de Bétaram. Bétaram, Igon, 4 km. Michel a vécu là l'étape la plus courte de sa carrière. Le voilà en octobre 1825 nommé à Bétaram et le 7 novembre, la rentrée se fait à Bétaram. Ce sera le séjour le plus long de sa vie. Bétaram, bon, à l'époque, il n'y avait pas un collège aussi mauvais qu'on le dit. C'est avant tout un sanctuaire marial. Saint Vincent de Paul, au 19 juin 1659, disait que c'était, si ce n'est le second, c'est au moins le troisième sanctuaire le plus fréquenté du royaume. Bétharram avait été détruit par les guerres de religion, rebâti début XVIIe siècle. La Révolution a voulu démolir tout Bétharram, mais la population de l'Estel, du village, a préservé le sanctuaire. C'est tout le calvaire qui a été détruit. Et après la Révolution, les deniers de l'abbé Pierre Procope Lassalle, originaire de Saint-Pé-de-Bigorre, mais sa famille maternelle était Digan, ont permis d'acheter Bétharram. Et c'est lui qui aura donné la maison maternelle aux filles de la Croix. Et c'est à partir de 1820 que les diocèses prennent le même territoire que les départements. Ce séminaire, il avait forcément, à cause de ses largesses, comme supérieur, l'abbé Lassalle. Mais c'était un séminaire un peu défaillant, un peu une abbaye de Thélème, parce qu'il y avait un grand désordre. En peu de temps, Michel Garrigue-Kuytz va mettre de l'ordre là. En 1831, le 5 juillet, Monseigneur Darboux, le nouvel évêque de Bayonne, depuis 4 mois, nomme Michel Garrigue-Kuytz responsable de 120 séminaristes. Sauf que, à la fin 1833, l'évêque ramène le séminaire à Bayonne, à côté de lui, puisque le découpage des diocèses a changé. Du coup, Garrigue-Kuytz va se trouver tout seul dans ce ancien séminaire, dans ce sanctuaire, avec la charge du sanctuaire. Tantôt on lui écrit comme sur les adresses, tantôt on le nomme ermite, tantôt chapelain, tantôt prêtre auxiliaire, tantôt prêtre habitué. Il n'y a que l'évêché qui continue à mettre supérieur du grand séminaire et lui corrige de 4 murs vides. Il a un compagnon, monsieur Simon Guimond, voilà. Mais lui, c'est un grand missionnaire devant l'Éternel, originaire de Barcus. Il est capable de parler aussi bien le béarnais que le basque, et il est à prêcher des missions. Michel Garrigue-Kuytz, lui, parle très peu le béarnais. Il ne lui reste pas grande ressource. En tout cas, il est obligé d'aller à Igon pour rencontrer les deux anciennes paroissiennes et parler en basque avec elles. Et là, il découvre la vie religieuse. Voilà un basculement. Et on passe au deuxième chapitre, si on peut dire ainsi. Parce que quand Monseigneur d'Astros l'a nommé à l'autre bout du diocèse, on pouvait se demander s'il n'était pas en train de l'enterrer si loin. Et lui voulait déjà en faire quelqu'un pour diriger les religieuses. De fait, au couvent d'Igon, dès 1825, Michel Garrigue-Kuytz découvre autre chose que lors de sa première visite. Il voit là des personnes heureuses de vivre, même si c'est dans la pauvreté. Là commence pour lui comme un officiant. En 1826, il a rencontré la fondatrice, Jeanne-Élisabeth Bichier des Haches. Et pour elle, il est envoyé par la Providence. Jeanne-Élisabeth Bichier des Haches, donc fondatrice des Filles de la Croix, elle est née en 1773, bien avant lui, aux confins du Poitou et du Berry. Elle appartient à la noblesse. Et après avoir connu la Révolution, ses frères exilés et tout ça, elle fuit tous les honneurs et se consacre à Dieu. Elle a rencontré le curé de Maillet, André-Hubert Fournet, un prêtre qui est passé par l'exil en Espagne et se fait proche des pauvres. Depuis qu'un pauvre est venu frapper à sa porte, il dit « il n'y a pas d'argent » et il lui fait remarquer « dans quoi mangez-vous ? » Il avait des couverts d'argent, donc c'est un converti. Jeanne-Élisabeth est passée d'un certain niveau social à la pauvreté, lui a fait le chemin inverse et elle le convertit. « Je me croyais un petit personnage, moi qui avais gardé les troupeaux de ma mère. Je me laissais aller à la laiterie. Je me parais de chaussures élégantes pour remplacer mes sabots de berger. La bonne sœur m'a amené à réfléchir et je compris que je faisais fausse route. C'est elle qui va le convertir. C'est la bonne sœur qui a tout fait. Et pourtant, le projet de fonder une congrégation, ce n'est pas Jeanne-Élisabeth Bichier des Sages qui en a parlé, c'est sa cousine, Marie Perpétue, qu'elle a installée pour être responsable des filles de la Croix du Sud de la France. En 1830, à Arudy, cette sœur Marie Perpétue déclare à Michel Garicoitz qu'il faudrait une communauté comme les filles de la Croix, pour les hommes. Michel Garicoitz demande où ? À Bétarame, que les séminaristes vont abandonner pour la ville de Bayonne. Quel sera le fondateur ? Vous, Monsieur Garicoitz. C'était la façon d'appeler à l'époque, hein, monsieur. Lui, il se lève, il salue, il sort, il fuit, il prend le cheval, il rentre. Parce que être religieux, oui, être fondateur, c'est une autre histoire. Les appels ne manquent pas. Il voit la déchristianisation suite à la Révolution. Souvent, on dit déchristianisation des campagnes. Mais Garicoitz, de lui-même, s'intéresse aussi et autant aux villes. Mais pour l'instant, il n'est pas religieux. Il voit la pauvreté spirituelle des enfants et des jeunes. Et il voit encore le peu d'obéissance des prêtres aux évêques à cause des querelles gallicanes, vouloir se séparer de Rome, ou alors à cause de ceux qui suivent Félicité de Lamennais. Il rêve, si l'on pouvait réunir une société de prêtres ayant pour programme le programme même du cœur de Jésus, dévouement et obéissance parfaite, douceur inaltérable, excusez-moi. Ces prêtres seraient un véritable camp volant de soldats d'élite, prêts à courir au premier signal des chefs, partout où ils seraient appelés, même et surtout dans les ministères les plus difficiles et dont les autres ne voudraient pas. Pour répondre à ce souhait, une communauté de missionnaires diocésains ne suffit pas. Il faut un institut religieux. Michel Garicoitz voit là un peu comme Ignace de Loyola. Est-ce qu'il va rentrer dans la compagnie de Jésus, basque comme lui, et dans l'un des premiers compagnons, François-Xavier Navarrais, comme Michel Garicoitz? Alors, en 1832, il se rend à Toulouse, où vient d'arriver le père Leblanc, après tout l'exil qu'ils ont eu à vivre, et il se confie à lui, dans une retraite. « Dieu veut que vous restiez à Bétarame, en continuant les ministères que vous y remplissez. Faites-y le bien et attendez. Dieu vous veut plus que jésuite. Vous suivrez votre première inspiration et vous serez le père d'une famille qui sera notre sœur. » Voilà le discernement du père Leblanc, jésuite. Comme il est à Toulouse, Michel Garicoitz en profite pour aller voir l'ancien évêque de Bayonne qui l'a ordonné prêtre et qui se trouve être à Toulouse, archevêque de Toulouse. Il finira comme cardinal d'ailleurs. Rentré à lui, Monseigneur d'Astros déclare « Commencez votre œuvre, sans devancer la Providence, suivez-la dans toutes ses indications, avec générosité et persévérance. » Rentré à Bétarame, Michel se jette aux pieds de Notre-Dame. Et là, il sent au plus profond de lui un mouvement extraordinaire qui l'encourage. Voilà donc que la congrégation peut naître. Quand le séminaire se vide, entre deux prédications de mission, les missions dans les paroisses comme on a pu connaître jusqu'à la première moitié du XXe siècle, M. Guimond reste seul avec Garicoitz. Mais peu à peu, ils sont 5-6 à se joindre à lui. L'acte de naissance de la congrégation, dans le mois d'octobre 1835, le personnel de Bétarame, composé de messieurs Gary Goetz, Guimont, Père Guillaume, Chiroux, Larouille et Fondeville voulut se donner une règle pour se sanctifier avec plus d'édification. Et là, sans autre noviciat, commence leur vie religieuse. C'est là que nous situons le début de notre congrégation. 1835, octobre. On n'a pas de jour plus précis. Et ils prennent comme règle le règlement de la maison des missionnaires d'Asparin. Il y a d'autres candidats qui apparaissent. Une première difficulté surgit, la plupart sont des missionnaires au départ, donc prêcher dans les paroisses. Avec l'approbation de l'évêque, Gary Goetz veut fonder une école. Et ses compagnons disent, nous on est prêtres, c'est pour dire la parole de Dieu, ce n'est pas pour prendre la craie, ce n'est pas pour enseigner les mathématiques. Et seul le père Guimont, pourtant le plus missionnaire de tous, appuie le fondateur, ainsi que Jeanne-Élisabeth Bichier des Sages. 1837, fondation de l'école de Bétarin. Le collège, ce sera 1847. Mais l'autre menace, elle est plus grave. Monseigneur Darboux présente sa démission. Le 10 août 1837, son successeur est nommé. Monseigneur Lacroix. Sans faire un mauvais jeu de mots, Monseigneur Lacroix aura été Lacroix de Michel Gary Goetz. Parce que nommé en 1837, il vient à Bayonne en 1838 et il est évêque de Bayonne jusqu'en 1878, 40 ans. Michel Gary Goetz retourne à Toulouse auprès du père Leblanc qui lui donne à ce moment-là le sommaire des constitutions de la Compagnie de Jésus. En 1838, la congrégation prend ce sommaire des constitutions et une partie des règles de la Compagnie de Jésus comme règle de vie. On est parti là sur une vraie vie religieuse. Par contre, Michel Gary Goetz met son empreinte avec un texte qui pour nous est un texte fondateur. Je vous dis le tout début, il a plu à Dieu de se faire aimer, et tandis que nous étions ses ennemis, il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils unique. Donc il place en premier Dieu qui aime. Dans la partie centrale, il regarde ce Fils de Dieu qui se présente à son Père disant « Me voici, je viens pour accomplir ta volonté, ô mon Père ». Et j'arrive vers la conclusion. À la vue de ce spectacle, les prêtres de Bétarin se sont sentis portés à se dévouer pour imiter Jésus anéanti et obéissant et pour s'employer tout entier à procurer aux autres le même bonheur. Ils se sont sentis portés à se dévouer. Dévouer dans le français de ce temps, c'est se consacrer par vœu. Et ce texte-là, nous tenons à le garder toujours en préface de notre règle de vie et de nos constitutions. Alors, il y a d'une part tout ce qui est qui vient du côté des jésuites, la règle, mais en même temps, il y a une autre source d'inspiration, c'est l'école française, ce qu'on appelle l'école française, et en particulier pour lui, Bossuet. La première phrase, « Il a plu à Dieu de se faire aimer », elle est textuellement de Bossuet. Historiquement, autour de 1830, ont été éditées à nouveau les œuvres complètes de Bossuet. Gary Goetz les a étudiées, le crayon à la main. Si ça a été réédité, c'était en faveur d'un certain gallicanisme. Mais en même temps, Gary Goetz découvre un auteur spirituel. Bossuet, dans nos écoles, on a appris les oraisons funèbres, la belle littérature, mais c'est aussi un auteur spirituel. Et au Sacré-Cœur, Michel Gary Goetz s'attribue la paternité de la congrégation. Il demande à ses confrères simplement de dire « Me voici ».« Me voici », c'est le leitmotiv du fondateur de Bétarin et c'est quelque part ce qu'il nous demande. Aujourd'hui encore. Que la volonté de Dieu soit faite, c'est la devise qu'il prend pour la congrégation. Et au 16 mars 1863, Michel Gary Goetz écrit encore Quant à Monseigneur l'évêque, je vous recommande le plus grand respect pour lui, il a mission et grâce d'État, et pour nous, sa volonté, quelle qu'elle soit, est la volonté même de Dieu. Pourtant, quand il dit ça, ils sont en pleine opposition. Et cette citation est du 16 mars 1863, au soir de sa vie, à l'aube de l'ascension qui approche, Michel Garicoïs, le 13 mai, va aller rencontrer l'évêque et il rentre à Bétaram le soir, n'étant sans doute plus supérieur de Bétaram. Il est allé le rencontrer à Mirepex, donc juste à côté de Nay, où l'évêque donne la confirmation. Il rentre n'étant plus supérieur. Sauf que le lendemain, l'évêque vient pour les obsèques parce que Michel est monté, est monté au ciel au matin de l'ascension. Il faut savoir qu'en 1841, l'évêque est venu imposer ses règles. L'évêque voudrait une société comme les Sulpiciens, d'où il est issu, qui dépendent de lui. Et Michel Garicoïs voudrait une congrégation religieuse. Alors, ils sont arrivés à un compromis. Ils ont créé la société des prêtres auxiliaires du Sacré-Cœur. Alors, vous lisez comme vous voulez. L'évêque veut une société de prêtres auxiliaires. Michel Garicoïs veut des prêtres auxiliaires du Sacré-Cœur. Et ils arrivent à joindre. Michel Garicoïs semble, au soir de sa vie, avoir perdu la bataille. Devant toute la foule, à l'homélie des obsèques, l'évêque dit « C'était un saint, mais il s'est trompé. » Et dans la foulée, quand il rencontre la communauté, il dit aux religieux qui sont là que désormais, les vœux ne sont plus obligatoires, ils sont facultatifs. Et ceux qui veulent s'en aller pourront s'en aller. Il y a toujours le père. Les religieux disent « Nous voulons garder ces vœux, nous ne vous servirons que plus fidèlement. » Ce qui a permis à la congrégation de rester, je le dirai un peu après peut-être, c'est qu'à côté des religieux prêtres, il y a ses frères qui, au sens premier du mot, n'ont pas voix au chapitre. C'est-à-dire, le chapitre, c'est l'ensemble des prêtres, les autres peuvent écouter sans prendre part à la discussion. C'est le fonctionnement de nos conseils municipaux. C'était la façon de faire de l'Église autrefois que la République a prise à son compte. La congrégation sera reconnue par Rome, ici c'est marqué officiellement, en 1875 seulement, suite au travail du père Etchecopar, ses palésiens de naissance et son deuxième successeur, suite à l'intervention d'une religieuse galiléenne qui était au Carmel de Pau entre extase et illumination, elle avait la faveur de l'évêque et c'est elle qui a poussé le même Monseigneur Lacroix à permettre que la règle de vie de Bétaram soit parte à Rome. Donc, congrégation qui est approuvée en 1875. J'ai laissé de côté, mais ça rentre dans cette troisième partie, en 1854, la décision a été prise déjà d'envoyer des membres de la congrégation en Amérique méridionale, comme on disait, pour le service des Basques et des Béarnais émigrés là-bas. Pour la petite histoire, quand les Béarnais émigrent en Argentine, ils deviennent basques. Ils se disent toujours basques, c'est très curieux. Et en même temps, pour l'évangélisation des peuples de l'endroit. Sauf qu'en Argentine, vous n'avez guère de traces maintenant des peuples indiens, relativement peu. Dès le début, Michel Garicoïs a voulu un institut qui était diversifié. Il ne se caractérise pas par ses œuvres. On dit parfois, Bétaram, ce sont les missions populaires, ce sont les collèges et autres écoles, c'est la formation de prêtres, ça a pu être le cas. Michel Garicoïs, dès le début, dit ceci, « La fin de notre société n'est pas tant de prêcher, d'entendre des confessions, d'enseigner, que de former des hommes propres et tout disposés à exercer saintement ces ministères. » C'est dans une attitude spirituelle et non pas dans un faire que se caractérise la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. La fin de la société est d'enfanter et de former des ministres tellement parfaits que, au premier signal de la volonté de l'évêque ou du supérieur, ils puissent être dignement choisis pour travailler au salut des âmes. D'où cette diversité dans la présence de Bétharan, à travers l'espace et à travers le temps. 1856, les premiers sont partis en Argentine. 1861, les voilà à Montevideo, en Uruguay. En 78, et suite à Sœur Marie de Jésus crucifié, donc cette carmélite, les voilà à Bethléem. Et aujourd'hui encore, nous sommes présents à Bethléem et Nazareth, à l'ombre des Carmels. En Europe, c'est l'Assemblée nationale qui permet à la congrégation d'aller ailleurs, puisque suite à la loi de 1901, en 1903, les congrégations non reconnues par l'État français sont expulsées. Donc, la congrégation va de l'autre côté de la Bidassoie, à Irun et plus tard Fontarabie, mais ils vont très vite dans l'Italie du Nord, où les Béarnais, paraît-il, parlent leur langue qui est comprise dans le patois du nord de l'Italie. Ils sont partis et ils voulaient mettre le supérieur général et son conseil en Belgique. Là-bas, par contre, il y a eu peu... On ne s'est pas développé là-bas, même s'il y a eu quelques Belges, quelques unités à devenir religieux de Bétharan. En Angleterre encore, où on est présent. 1904, c'est à partir de l'Amérique latine, la fondation au Paraguay. Il faut dire aussi que le fait de l'expulsion a amené beaucoup de religieux à s'en aller en Amérique du Sud. Ensuite, 1835, c'est le Brésil, pour les 100 ans de la congrégation. En 1921, entre-temps, le pape avait demandé qu'on aille en Chine. Et donc, les missionnaires, les religieux de Bétharan sont partis en Chine, au Yunnan. Ils en ont été chassés par la libération, selon la terminologie officielle, donc par les communistes. En 1947, la congrégation s'est répartie en provinces. La province de France est allée en Algérie et au Maroc. Je pense que c'était lié à la présence française. Par contre, ça n'a pas duré. La province de France a fondé en Centrafrique en 1959. Celle d'Italie, la province de France en Côte d'Ivoire en 1959, juste à la veille de l'indépendance, et parmi les premiers religieux à être là-bas. En 1986, l'Italie fonde en Centrafrique. En Thaïlande, il y a des jeunes Thaïlandais qui deviennent religieux de Bétharan. À la fin du XXe siècle, c'est des jeunes Indiens qui demandent à entrer dans notre congrégation suite aux servantes de Marie, puisqu'il y avait des Indiennes qui étaient dès lors devenues servantes de Marie. Et au début de ce siècle, il y a une communauté en Jordanie, en paroisse, avec deux religieux bétharamites arabes, l'un de nationalité israélienne, l'autre de nationalité jordanienne. J'ai dit l'importance tout à l'heure de religieux frères avec les prêtres, et ça me paraît très important pour nous aujourd'hui, car c'est eux qui nous disent notre caractère religieux, avec les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et l'esprit dans lequel on doit vivre. Et depuis que le 6 juillet 1947, Pie XII a proclamé Michel Gary-Coates saint, sa spiritualité peut être proposée, elle peut être proposée partout dans le monde. Et il y a, depuis une bonne vingtaine d'années, des laïcs qui, en France, veulent suivre cette spiritualité là où ils sont présents, et il s'appelle Fraternité Me Voici. Ailleurs, il y a aussi, dans d'autres pays, des laïcs qui veulent vivre de la même spiritualité. Il faut que la conférence ait une fin. L'aventure ne peut pas avoir de fin, dans la mesure où Dieu, l'Éternel, n'a pas de fin.
Vous venez de suivre Saint-Michel Garicoitz, sa vie et son œuvre hier et aujourd'hui, une conférence présentée par le père Beñat Oyenar, enregistrement réalisé en 2013 au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne.